Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Plusieurs conflits intercommunautaires sont souvent enregistrés, signalés dans plusieurs coins de la République. Et à la base de ces conflits, on retrouve des problèmes fonciers, des problèmes de succession ou de leadership. Alors d'autres conflits sont liés à l'intolérance ou à des manipulations de certains acteurs politiques. Alors plusieurs cas de ces genres de conflits sont signalés dans les Katanga et dans les deux Kasaï. Alors comment lutter efficacement contre ces conflits entre plusieurs communautés? Isidore Bamanaï est sociologue et éducateur à la vie. Avec lui, nous allons aborder ce thème. Vous avez des témoignages, vous avez des cas précis, des conflits. Et puis peut-être que vous savez comment certains conflits ont été résolus. Il y a eu des résolutions pacifiques des conflits quelque part. Vous avez des témoignages. N'hésitez pas à les partager cela dans cette émission de la vie au quotidien. Isidore Bamanaï, vous êtes sociologue et éducateur à la vie. Dites-nous, qu'est-ce qu'on entend d'abord par conflit intercommunautaire?
Merci beaucoup, Jody. Je me permets qu'au début de cette année, c'est la première fois que je passe sur les antennes de la radio au Capi. Je puisse en profiter pour souhaiter heureuses années à toi-même, à tous les personnels de la radio au Capi.
Merci.
Et aussi à tous les auditeurs de cette radio de la paix. Cela dit comme ça, je crois que les conflits, c'est une situation de désagrément de mes enfants, mais aussi parfois une situation de tension qui peut exister ou même qui peut éclater entre des individus ou des groupes d'individus. Dans le cas que vous évoquez, c'est une situation de tension qui existe entre deux communautés. Ça peut être deux villages voisins, ça peut être des associations, ça peut être des partis politiques. Mais l'orientation que vous donnez au sujet, c'est vraiment peut-être entre des groupes ethniques ou entre deux villages, une situation de tension, de mésentente qui existe ou qui éclate entre les groupes de personnes.
Voilà. Et généralement, quelles sont les causes? On parle souvent des problèmes fonciers. Les deux villages peuvent se disputer un lopin de terre. Ça peut être des disputes autour d'une source d'eau. Et quelles sont les autres raisons qui peuvent être à l'origine, à la base de ces conflits intercommunautaires?
Bon, il faut considérer que dans une situation pareille, il y a des causes lointaines. Et il peut y avoir aussi des causes immédiates. Les causes lointaines, ça peut être des femmes qui sont allées à la source, qui se sont regardées méchamment, qui se sont dit des choses désagréables. Et ces choses-là ont été rapportées auprès des membres de la famille. Et on n'a pas pu agir à temps pour effacer les différends. Ces paroles-là se retournent dans le cerveau de quelqu'un pendant un temps. Il dit, bon, le moment viendra où je vais lui rendre ses comptes. Il ne veut pas s'adresser à moi de cette manière-là. Et des petits faits de chaque jour, des petits faits de mépris et des paroles mal placées, des petits faits de l'ignorance des intérêts d'autres personnes, qu'un groupe encaisse de temps en temps, et puis à un certain moment, il y a le ras-le-bol, il y a une dernière goutte qui remplit le verre et qui déverse le verre. En ce moment-là, les conflits éclatent. Vous avez dit qu'il y a des conflits de pouvoir. Par exemple, chez nous, ici au Kasaï oriental, il y a des villages où il y a des sources de minerais, de diamants, que beaucoup de jeunes gens aiment exploiter pour avoir un peu d'argent. Et peut-être que dans ce village-là, il y a une famille régnante. Une autre famille qui a un peu plus de moyens peut dire, mais comment? Comment est-ce que peuvent régner et profiter des ressources, des minéraux que nous avons toujours eux, pourquoi pas nous? Eh bien, l'idée commence comme ça petit à petit, on va voir les autorités, on verse des pots de vin, on dit, ben nous, nous pouvons, nous, nous pouvons. Mmh. Et comme parfois les autorités se laissent avoir par des pots de vin, et ils vont dire, non, à partir d'aujourd'hui, on sort un décret, on sort une ordonnance pour dire, dans ce village-là, le chef, c'est elle. La famille régnante va dire, non, ça ne doit pas se passer comme ça, c'est notre pouvoir coutumier, les choses ne se règlent pas comme ça, alors le conflit peut éclater. Mmh. Alors qu'à la base, il y a un intérêt économique. Il y a peut-être un gisement de l'or ou un gisement de ciment. Souvent, comme vous l'avez dit, il y a des personnes qui tirent des ficelles en dessous, qui disent non, mais ils ne doivent pas nous dominer tout le temps et nous devons aussi relever la tête et les choses doivent changer. Il y a aussi des conflits des limites. Des limites entre deux communautés. Parfois, les limites-là sont déplacées à l'insu des autres. On ne veut pas respecter la tradition, on ne veut pas respecter l'histoire. On déplace les limites. Évidemment qu'il y a à la base un intérêt économique ou un intérêt politique, tout simplement, pour dire qu'on les repousse un peu plus loin. Parfois, c'est un peuple qui est venu là par après, à qui on a cédé un espace géographique pour s'établir et vivre. Mmh. Bon, les autochtones peuvent dire, mais comment? Ils sont venus, maintenant ils deviennent riches, ils élèvent, ils cultivent. Là où ils sont, on a des champignons, on a des chenilles, alors que nous, de notre côté, c'est peut-être le désert qui s'annonce. Repoussons-les un peu, qu'ils nous laissent notre place. Je crois qu'à ce moment-là, le conflit peut éclater facilement et les communautés.
Le conflit peut aussi être identitaire, comme à l'Est, où il y a ce genre de conflits. Telle communauté dit à telle autre que vous n'avez pas le droit d'être ici, vous n'êtes pas des Congolais, vous n'avez pas le droit de vivre comme ça, et voilà, et ces conflits éclatent.
Oui. Le conflit ethnique, le conflit lié à l'origine. Vous savez, le conflit est même inhérent à l'individu lui-même. L'individu lui-même est en conflit avec sa propre nature. Chaque jour, il se bat pour faire le bien, parce que devant lui, il y a le bien et le mal. Mais comme nous sommes porteurs de cette nature de faiblesse, due au péché que nous avons dû commettre depuis très longtemps à la création, on est en conflit avec nous-mêmes tout le temps. Mais il y a des gens qui veulent être des leaders, qui veulent qu'on ne parle que d'eux. Qui disent les autres n'ont pas droit au chapitre, ils n'ont rien à dire ici. Vous êtes qui pour vous prononcer comme ça tout le temps? Et je crois que si on ne tient pas compte de l'existence des autres, de leur présence, des droits qu'ils ont, en ce moment-là, on risque de les piétiner, on risque de les bafouer, et quand on bafoue les droits de quelqu'un, eh bien, il va se mettre à se défendre, et quand on se défend, on va se dire, bon, on va voir qui est le plus fort entre nous deux.
Bien. Comment lutter contre les conflits intercommunautaires en République démocratique du Congo? Nous recevons aujourd'hui Isidore Bamanai, sociologue et éducateur à la vie. Il intervient depuis Mbujima et nous avons en ligne deux auditeurs. Honorable Tchongo nous appelle de Kinshasa et Alidor Mukendi de Kananga. Honorable Tchongo, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Merci. J'ai intérêt de participer à cette émission parce que c'est une émission qui touche nos cœurs. Hein. Je suis même, moi-même député national, mais de la circonscription de la ville de Tchikapa. Mmh. Et la ville de Tchikapa est en train de suivre ce temps, le problème du conflit par rapport à ce que vous venez de dire. Ils sont venus du Kassai central, mais maintenant qui cherchent maintenant à diviser la population du Tchikapa. Je vous parle ici, il y a des villageois qui sont dans revenir. Mais c'est le problème de la gestion de ressources humaines. La gestion de ressources humaines, c'est le problème tellement grand, c'est parce que vous savez, la vie même, c'est un combat, c'est un conflit. Et le problème des conflits entre les communautés relève de l'aspect personnellement, individuellement égoïste, de la recherche de l'intérêt, et puis il y a un soubassement de, vraiment de l'attitude de la personne, d'incompréhension entre les individus. Cela dépend de la maturité des individus qui sont appelés à gérer des ressources humaines d'une façon ou d'une autre, dans un groupement, dans une société, quelque part. Mmh. Mais chacun cherche son intérêt.
Oui.
Et en oubliant la défense, la définition même de défense de droit, il y a quelquefois l'intolérance, l'incompréhension, et toutes les deux parties se mettent en conflit, sans objectif réellement connu, et ça demeure ainsi. Et là, on peut demander, exiger maintenant la participation, c'est l'intervention de l'État pour pouvoir s'aider, pour, à partir même du règlement de droit, pouvoir trouver des solutions. Parce que le grand problème, même chez nous là, il y a des problèmes entre nos communautés par rapport à certains conflits sur les mines de diamants. Même les chefs de groupement, un chef de groupement qui, dans sa circonscription, a une mine de diamants, ne peut jamais vouloir qu'un autre chef de groupement vienne initier, vienne chercher le diamant, ou la population de l'autre groupement vienne chercher le diamant chez lui. Mmh. S'ils viennent, ils doivent répondre à toute décision, c'est-à-dire toute réclamation de ce chef, qui est chef même du patrimoine. Entre les médias, lorsqu'ils se mettent à chercher cet intérêt, mmh, et chacun va chercher son intérêt.
D'accord, chacun des intérêts.
Cherche, même en dehors même du droit, chacun veut chercher d'une manière égoïste.
D'accord, honorable. Alors, quelle est la question que vous adressez à l'invité du jour?
Ma question, c'est de pouvoir, il faut que celui qui intervient puisse savoir défendre le droit. Connaître le droit. Il n'y a pas de droit sans sanction. Le grand problème chez moi, parce que je ne veux pas vouloir politiser, mais quand il y a conflit, parce qu'il est dit que, partant même de la création de Dieu, Dieu a créé l'homme lui-même un conflit, l'homme dans la société ne doit pas manquer de conflits, les conflits doivent être là, mais il faut savoir les régler.
D'accord.
Savoir les régler, c'est respecter les principes de droit.
D'accord.
Que chacun connaisse où se trouve la limite de son droit par rapport au droit de l'autre.
D'accord.
On a demandé à toutes les deux parties d'avoir un peuplement, d'avoir l'esprit de tolérance, et surtout, l'esprit de la compréhension. Savoir comprendre qui a raison, qui n'a pas raison. Et si moi, j'ai pas raison, qu'est-ce que je vais faire par rapport à l'intérêt de l'autre?
D'accord, merci, honorable.
Et avancer.
Merci, honorable Tchongo, pour cet apport. Alidor Mukendi, vous êtes à Kananga. Bonjour. Et quelle est votre question par rapport au conflit intercommunautaire?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, je dis merci à notre invité qui est en Mbujimayi, Alidor Mukendi à Kana, comme vous venez de dire là.
Oui, je l'ai déjà dit. Donc, gagnez le temps, Alidor. Gagnons le temps, on va passer directement à la question.
Vraiment, je pleure. Et le conflit qui se passe chez nous ici au Kassai Central. Je voulais demander à notre invité, comme ce sont les experts en matière de conflits communautaires, quel est le rôle des membres de la famille Eriante?
Vous voulez parler du conflit? Vous voulez parler de l'affaire de Kamuina Nsapu?
Moi, je ne pense pas qu'il est déjà mort, comme on est aujourd'hui par le gouverneur qui avait confirmé sur la radio. Et moi, je voulais d'abord demander à notre invité là, qu'il m'explique d'abord le rôle de l'État envers les chefs coutumiers. Il n'y a pas de respect d'abord. Le conflit coutumier est annoncé par les membres de la famille. Alors, quand l'État recevoir ça par les services de sécurité comme honneur et ordre, l'État ne cherche pas à avoir d'abord la vérité.
Alors,
appuyer quelqu'un.
Oui. Alidor, passez directement à la question. D'accord, passez directement à la question. Quelle est la question que vous adressez à Isidore Bamanaï?
Oui, ma question que je vais adresser à notre invité, qui nous explique qui est à dirigé des unions chefs coutumiers dans la famille.
Voilà, qui est habilité à désigner un chef coutumier? Isidore Bamanaï.
Oui, bonjour à l'honorable, bonjour à Isidore qui est à Kananga. L'honorable a apporté une contribution. Je crois que si on ne connaît pas les droits, si on ne peut pas défendre les droits, si on ne peut pas respecter les droits des uns et des autres, c'est vraiment l'origine des conflits. C'est peut-être des conflits interminables. Ces conflits, dans cet aspect des choses, c'est seulement reconnaître le droit de chacun et essayer de défendre ces droits-là. Mais notre ami Alidor Akana me dit, mais qui peut désigner un chef coutumier? Moi, je crois que depuis notre tradition, le chef coutumier ne peut pas être désigné par l'État. Depuis notre tradition. Nous connaissons que dans nos villages, il y a la famille régnante, et que dans cette famille régnante, le pouvoir est rotatif. Après que Mukendi, comme lui à Lidor, s'il est dans la famille régnante, après qu'il ait régné 5 ans ou 10 ans, on va dire maintenant c'est la famille de tel, qui est peut-être son cousin, l'enfant de son père, de son oncle paternel, on dit, maintenant qu'eux ont régné pendant un temps, le tour suivant, ce sera tel. Et il y a dans cette famille des notables qui connaissent mieux l'histoire, qui connaissent mieux la tradition de ce village, et qui disent, en ce moment-ci, ce n'est plus lui. Lui, son pouvoir est terminé. Maintenant, le pouvoir, on doit passer le bâton à tel. Et depuis nos ancêtres, on a régné comme ça, sans beaucoup de problèmes. C'est quand l'État est venu se mixer dans le pouvoir coutumier qu'il a commencé à sortir des décrets, des arrêtés et même des ordonnances. Et alors les gens se promènent avec des dossiers au ministère de l'Intérieur, ils montent, ils descendent. Comme il y a des ministères en province, ça peut être en province, ça peut même être à Kin. D'un matin, comme ça, les gens sont surpris. Quelqu'un descend dans le village avec un arrêté, il convoque les membres de ses proches, il dit, voilà, moi j'ai eu l'arrêté du ministre, à partir d'aujourd'hui, c'est moi le chef. Je crois que les autres qui sont là, qui connaissent l'histoire de leur village, vont se mettre à dire, mais depuis quand? Depuis quand vous êtes dans la famille régnante? C'est comme ça que les conflits ont commencé, et que les chefs de coutumiers ont été considérés comme des agents de l'État, et même peut-être payés. Et depuis tout ce temps-là, les conflits ont commencé parce que maintenant c'est l'État qui désigne et non pas tellement les membres de la communauté qui reconnaissent en quelqu'un. Et c'est vraiment celui-là notre chef. Je crois que cette manière démocratique de vivre était beaucoup meilleure par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Je ne sais pas dans d'autres provinces comment ça se passe,
oui.
Mais du côté de chez nous ici c'était comme ça. La famille du chef, la famille qui a le pouvoir, est connue de tout le monde. Et ce pouvoir-là, dans cette famille, est rotatif. Et en ce moment-là, ce n'est pas l'arrêté qui désigne le chef. Même s'il y a arrêté, on devra rétablir la vérité et dire, nous avons suivi l'histoire, nous rétablissons la vérité en reconnaissant celui-là qui est de la famille régnante.
D'accord. Alors Isidore Bamanaï, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à une résolution pacifique de tous ces conflits communautaires, intercommunautaires à travers le pays?
Ah, je crois que, considérant le cause, on devra bien analyser la situation. Si ce sont des conflits de limites, qu'on rétablisse les limites qui avaient été laissées par les ancêtres, qui font que, parce qu'on déplace les limites, les conflits vont éclater. Si c'est un conflit pour l'intérêt économique, je crois qu'il faut seulement réglementer l'exploitation des minerais dans une contrée, dans un village. S'il y a des mines de diamants, par exemple, que l'État, parce qu'après tout, on dit les sols et les sous-sols appartiennent à l'État, que l'État intervienne pour dire, écoutez, s'il y a exploitation artisanale du diamant, voilà la procédure à suivre et que tout le monde respecte cette procédure. Et donc, il faut absolument analyser la situation, et rétablir la vérité et surtout chercher à rétablir les responsabilités. Ceux qui sont à l'origine du conflit, quels sont les faits et gestes qui ont été posés, qui ont fait éclater le conflit, et rétablir les responsabilités, pousser les responsables à reconnaître qu'ils ont dépassé les limites, qu'ils ont dépassé le borne, qu'ils ont déplacé le langage, qu'ils ont bafoué les intérêts des autres, qu'ils le reconnaissent. Et peut-être entre villages, qu'on puisse se pardonner mutuellement. Chez nous ici, on dit « Kude Chibalu ». On va se laver les mains dans un même pot, et à l'occasion... Et on dit, bon, immolons une chèvre ou un poulet, mangeons ensemble, dans une même marmite pour nous dire désormais, nous sommes semblables, nous sommes une communauté, nous sommes unis désormais parce que nous avons mangé dans un même bol et que plus jamais de pareilles situations ne doivent revenir. Je crois que si on suit cette procédure-là, avec impartialité, avec tolérance, avec un peu d'humilité, pour dire, écoutez, c'est vrai, c'est les gens de chez moi qui se sont mal comportés, moi, leur chef, j'assume la responsabilité, je vais réparer. Parce qu'à un certain moment, si on a causé du tort aux autres, il faut passer par la réparation. La réparation peut être des paroles que l'on a prononcées, peut être des gestes que l'on a posés. Et voilà, pour cela, nous payons deux chefs à votre chef. Allez les consommer, c'est notre réparation. Je crois que toute cette procédure-là n'était pas ignorée de nos ancêtres, d'ailleurs, qui n'avaient pas beaucoup étudié, parce qu'ils respectaient les principes qui dirigeaient leur communauté et essayaient toujours de réparer ce qu'il y a là comme conflit, comme mésentente, comme tension, en rétablissant les responsabilités et en demandant à celui qui est fautif de reconnaître son tort et même parfois le reconnaître publiquement, parce qu'on dit « Chikuit Mukulu Lamuseng », le reconnaître publiquement de telle manière que désormais qu'ils disent « Désormais, on ne va plus dire ».
Bien, comment lutter contre les conflits intercommunautaires en RDC? Isidore Bamanaï, sociologue et éducateur à la vie, et l'invité d'Okapi Service, Kazadi, nous appelle des Koloizi et Jimmy de Mahagi.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Kazadi, vous êtes à Koloizi, bonjour, et quelle est votre préoccupation?
À Kamina, s'il vous plaît.
Vous êtes plutôt à Kamina, d'accord.
Oui, moi j'avais une petite préoccupation. Je vais poser la question à l'invité. Est-ce que les autorités administratives ou politiques là peuvent aussi être les agents causales de ces conflits, puisqu'on l'a vu, un problème qui a été traité par un administrateur bien clôturé, mais arrivé un moment où le ministre de l'Intérieur qui va aussi donner raison à un autre monsieur qui a commencé maintenant à chapeauter les histoires. Les gens sont en train de s'entretuer là-bas. Est-ce que le ministre là, si ces gens-là s'est tué, il est-il l'agent causal de ces conflits ou quoi? Il peut me répondre là.
Merci. Jimmy, vous êtes à Mahagi, bonjour, et quelle est votre préoccupation?
Oui, c'est Jimmy Bataga à partir de Mahagi.
Quelle est la question, Jimmy?
Oui, salut, j'ai dit salut à l'invité. Alors, je voulais vous poser une question, parce que ici, chez nous, en Ituri, vous savez, tout ce qui s'était passé avec l'Ituri, il y avait des guerres tribales, ceci, cela, des conflits communautaires, là. Il y a notre tribu qui se sent un peu économiquement fort par rapport à notre tribu. Et ça fait que une autre tribu, là, a une domination sur notre tribu qui n'est pas là forte, là, économiquement. Pour éviter ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que vous allez voir notre tribu là qui est faible communiquer économiquement. Celui qui est là au service de notre tribu, qui est fort économiquement, il n'y a pas moyen de faire depuis le départ de notre tribu. Alors je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai dit de notre invité pour nous dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça?
Bien, merci Jimmy Ngalula. Tamba Tamba, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et quelle est votre question?
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les...
Parlez un peu plus fort, Ngalula.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'hiver, tout en étant que j'ai connu depuis Mbujumaï.
Quelle est votre question, Ngalula?
Les personnes qu'on a arrêtées pendant ce conflit par l'État congolais, on peut les juger sur quelle loi dans notre pays? C'est ça ma question.
Quelles personnes arrêtées? Vous parlez de quelles personnes exactement?
Oui, les auteurs des troubles, les auteurs, les gens qui ont causé ces conflits, on peut les, une fois qu'on les arrête, on peut les juger sur quelle loi arrêtée de mon capitaine du Congo.
Merci, Isidore Bamanaï.
Oui, merci à notre ami de Kolwezi, Adimi, à Mahagi, et Ngalula qui est à Lumbashi. Je crois qu'à un certain moment, il y a des autorités administratives et politiques. Toutes les raisons d'intérêt politique, ils apportent des conflits dans la communauté en passant à côté de la vérité en essayant de découvrir la vérité et en défendant les gens qui leur sont favorables. Si telle famille régnante n'est pas rangée dans un camp politique, soit la majorité ou l'opposition, les autres membres de ce camp-là peuvent dire « cet homme-là est en train de nous gêner, je crois qu'il faut l'écarter et mettre quelqu'un d'autre ». Et si on agit de cette manière-là, si on agit dans cet esprit, les autorités administratives, au lieu qu'il y ait la paix, ils apportent le conflit dans la communauté et les gens sont en train de s'entretuer pour leur intérêt politique, pour leur intérêt d'émergence ou de domination. S'ils rétablissent la vérité, je crois qu'il y a des autorités qui arrivent dans un village, qui prennent tout le temps d'écouter les gens, d'analyser la situation et de chercher à rétablir la vérité. Qui est chef et qui ne l'est pas. Dans ce moment-là, je crois que ces autorités-là, on peut les encourager parce qu'ils sont en train de faire un travail de qualité qui font que la communauté peut vivre en paix parce que nous le savons tous, sans la paix, on ne peut pas progresser, on ne peut pas aller de l'avant. Mais en Ituri, s'il y a une communauté un peu plus forte économiquement par rapport aux autres, ben, il faut étudier pourquoi les autres ne sont pas économiquement forts. Peut-être que ce sont des gens faibles, ce sont des gens qui ne travaillent pas, ce sont des gens qui ne sont pas aptes à chercher à avoir un essor économique important, ou peut-être qu'il n'y a pas de minerais dans leur contrée. Mais parfois, ils oublient qu'ils ont la possibilité de cultiver et attirer l'argent pour ceux qui ont des minerais, des mines d'or ou des diamants ou où il y a des puits de pétrole. Mais si de l'autre côté, on n'a pas le pétrole, on n'a pas le diamant, on peut se verser dans l'agriculture et dans l'élevage. Ceux qui ont l'argent là, cet argent va arriver chez l'agriculteur. Dans ce moment-là, ils vont se relever aussi sur le plan économique. Mais s'ils se laissent dans cette faiblesse, et parfois ils se disent, mais nous ici on est pauvres, qu'est-ce que nous pouvons faire? Ils tendent les mains vers ceux qui ont l'argent, et bien la main qui donne vous domine, la main qui vous nourrit vous domine. Et on va continuer à marcher sur les doigts des autres, des pauvres, pendant des années et des années, et on s'arrange même pour les abrutir, pour qu'ils ne puissent pas un jour se demander, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi nous on demeure dans cette situation? Donc je crois que ceux qui sont dans une contrée ou dans une communauté économiquement faible doivent se dire, non mais écoutez, nous devons survivre. Dans le cas contraire, on va nous effacer. Parce qu'à un certain moment, si on découvre chez eux là qu'il y a aussi des minéraux, on peut les repousser plus loin et prendre leur village parce qu'ils sont forts et continuer à exploiter, à devenir de plus en plus forts qu'avant. Je crois que ces mépris-là, il faut les combattre. Il faut que ceux qui sont économiquement faibles se disent, nous avons droit à la vie, s'il n'y a pas de minéraux chez nous, mais qu'est-ce que nous devons faire pour gagner la vie et pour vivre dignement? Et en ce moment-là, quand on vit dignement, même ceux qui sont économiquement là forts, ils vont dire, oh, ces gens-là ont commencé à s'habiller comme nous, ces gens-là ont commencé à prendre aussi un verre de bière, ces gens-là ont commencé à fêter comme nous. Chez eux, il y a aussi des gens qui ont des véhicules, etc. Ici, chez nous, ici, il y avait des jeunes gens qui venaient des villages environnants pour travailler à la maison des agents de l'État. Mais il faut les voir, les jours de la fête, ils sont habillés chiquement, ils vont prier dans leur église, à la messe. Et ils se disent, bon, écoutez, nous travaillons, nous gagnons de l'argent à partir de ce que nous sommes en train de faire. Et on ne peut pas nous piétiner. Je crois que de cette manière-là, il faut élever l'esprit de ceux qui sont économiquement faibles, pas pour lutter contre ceux qui sont économiquement forts, mais pour se dire, nous devons nous prendre en charge pour vivre dignement, et oui, en ce moment-là, le respect va arriver.
Isidore Mamanai,
mais quelle est la loi pour ceux qui sont arrêtés quand il y a eu conflit?
Oui.
Bon, je crois que ceux qui ont étudié la loi, ils savent qu'il y a la loi pénale, il y a la loi ainsi de suite. Selon les cas, il y a des lois qui sont édictées par le pouvoir en place qui font que pour tel cas, c'est telle loi qui doit juger quelqu'un.
Voilà. Nous avons la réaction de Dieu Merci Elenga, qui de Kisangani. Il nous dit ceci. Pour lutter contre les conflits intercommunautaires, l'État doit commencer par établir son autorité et puis ensuite réduire les inégalités sociales et encourager le dialogue social et la cohabitation pacifique. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Dieu Merci?
Oui, il a tout à fait raison. Quand il y a inégalité, qu'il y a convoitise. Quand il y a inégalité, il y a peut-être à un certain moment un sentiment de révolte. Quand il y a inégalité, il y a intolérance, il y a le mépris des autres, il y a la violation des droits des uns. Et ceux qui se trouvent dans un état de réprimande, dans un état d'oppression, ceux qui se sentent opprimés, ceux qui se sentent frustrés, je crois qu'à un certain moment, ils vont se dire non, ça ne doit pas continuer comme ça, il faut réagir. Donc il faut rétablir l'égalité des chances, il faut établir l'égalité selon le droit, il faut établir une égalité économique. Si dans un contrat on a la possibilité de s'organiser et d'avoir des moyens économiques, il faut penser aux autres. Nous nous soutenons, nous nous élevons ensemble, parce que le développement est développement quand il est communautaire. Si le développement est réservé à une catégorie de personnes, c'est ça qui fait qu'il y a des conflits, hein, comme dans notre pays. Il y a ceux qui ont tout en main, une minorité, qui se dit majorité, alors que la majorité vit dans la misère. Et parfois, on fait misère, on se dit, bon, nous allons les faire des dons. Et malheureusement, quand on fait des dons, il y en a qui acclament et qui pensent que leur vie est suspendue à la volonté d'un groupe de personnes.
Donc,
la société ne doit pas être organisée comme ça. Oui.
D'accord. Alors, il a parlé aussi du dialogue social. Comment arriver à organiser ces dialogues en permanence, de manière permanente pour, n'est-ce pas, résoudre les conflits?
Oui. Ça, c'est l'affaire des leaders. Le dialogue social, c'est vrai que dans la communauté, là, il y a les chefs du secteur, il y a les chefs du village, il y a peut-être l'administrateur du territoire, qui, de temps en temps, doit être à l'écoute de la population, qui, de temps en temps, doit convoquer les différents groupes pour tâter la situation, pour se dire comment ça se passe sur notre territoire. Je crois que si, dans la manière de gérer, il y a l'honorable qui a parlé de gestion des ressources humaines, dans la manière de gérer, la meilleure façon de gérer, c'est d'être en communication presque permanente avec les sujets. Si on ne peut pas connaître quels sont les problèmes qui se vivent dans notre contrée et comment s'y employer pour trouver solution, dans ce moment-là, on est surpris par l'éclosion des conflits entre les communautés et parfois on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parfois, on envoie seulement les policiers pour réprimer, mais alors que dans une certaine mesure, quand les policiers vont sur terrain, s'ils n'ont pas été préparés suffisamment, s'ils n'ont pas eu beaucoup de moyens, ils vont se servir eux-mêmes sur terrain. Au lieu que la paix revienne, ça fait que les gens vont quitter les villages pour aller en brousse. En ce moment-là, je crois qu'on n'a pas amélioré la situation. Donc, un dialogue social permanent permet... C'est comme en famille. S'il n'y a pas de dialogue, si les parents ne connaissent pas le problème qu'ont leurs enfants, eh bien, il y a des conflits latents qui vont éclater à un certain moment. Mais si on doit prévenir quels sont les gestes, quelles sont les paroles que nous devons avoir chaque jour vis-à-vis les uns des autres pour que nous ne puissions pas se blesser. Parce qu'il ne faut pas attendre que quelqu'un soit blessé pour venir commencer à panser les plaies. Même quand on a pansé les plaies, il y a des cicatrices qui restent. Quand une cicatrice se reste, à un certain moment, ça chatouille là-dedans, on a envie de se gratter.
Oui.
Donc, il ne faut pas attendre qu'on soit blessé pour pouvoir réparer, mais il faut plutôt prévenir, parce qu'on est blessé par des petits gestes, par des paroles, par des mots qu'on a placés et qui n'ont pas été bien reçus par les autres. Et en ce moment-là, je crois qu'à travers ce dialogue, il y a moyen d'éviter tout cela qui envenime des situations.
Oui.
On va continuer à vivre en paix et on va aller de l'avant.
Alors, mec, par rapport à la manipulation politicienne, tant que certains politiciens vont tirer les ficelles dans l'ombre, est-ce que vous pensez que le dialogue social pourra résoudre les problèmes?
Oui, le dialogue pourra résoudre les problèmes parce qu'à travers le dialogue, il y a moyen de les dénoncer. Et quand on les dénonce, il faut que la loi les sanctionne. S'ils sont à l'origine de tel ou tel autre conflit, il faut que la loi les sanctionne. Si la loi ne sanctionne pas, malheureusement, comme dans notre pays, celui qui est au pouvoir, il a la justice dans sa poche gauche, il a l'argent dans la poche droite. Eh bien, à un certain moment, il sort l'argent, il donne aux gens, les gens se taisent. Quand ça devient une dure, il va vers la justice, il dit, bah, écoutez, laissez-moi tranquille, je n'avais pas à m'interpeller. C'est ça qui fait que les conflits sont toujours là. Mais si on peut dénoncer celui qui tire le ficelle, et que l'État dit, écoutez, maintenant là, moi, j'interviens pour établir l'ordre, je crois que les conflits vont diminuer. Même peut-être vont disparaître, mais c'est impossible que les conflits disparaissent entre les temps. Mais les conflits vont diminuer parce que les gens sauront que chaque fois qu'on aura agi de telle manière, on va être sanctionné.
Bien. Isidore Bamana, sociologue et éducateur à la vie. Merci et bonne journée.
Merci Jody et au revoir aux auditeurs de la radio.